Ce matin, nous allons lire un texte qui se trouve dans Ésaïe 7. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétin, roi de Syrie, monta avec Pekar, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm. » Et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Achaz, toi et Shéar Yazoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétin et de la Syrie et du fils de Remalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Achaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Et en fait, ce matin, je me suis dit, on sera certainement en comité un petit peu plus réduit que d'habitude, et certainement que les gens qui sont là auront envie qu'on puisse vraiment se plonger dans la parole de Dieu et puis en ressortir un petit peu un steak pour la suite, et je me suis dit qu'on allait prendre ce texte, parce que vous avez peut-être remarqué, mais il y a ce verset qui est repris dans le Nouveau Testament, « Voici, la jeune fille ou la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et ce verset est cité dans le Nouveau Testament à la naissance de Jésus. Et Matthieu nous dit, en Matthieu 1, que cette prophétie est accomplie par la venue de Jésus-Christ. Je me suis dit, ce matin, on va s'arrêter un peu sur le texte d'Ésaïe et voir dans quel contexte cela a été prophétisé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin avant de venir au culte? Vous avez fait quelque chose d'absolument exceptionnel, d'absolument extraordinaire. Vous n'êtes même pas rendu compte que c'était si exceptionnel que ça. Je suis sûr. Vous êtes levé. Ouais, ça c'est extraordinaire, effectivement. Qu'est-ce qui a eu lieu encore après quand vous êtes levé? Déjeuner, la douche, on s'est brossé les dents, on a bu un verre d'eau, bu un café. Ouais. Et je suis sûr, on a tous fait quelque chose ce matin, c'est qu'on a ouvert le robinet et il y a de l'eau qui a coulé. Et ça, c'est génial, parce que l'eau quand même, hein, c'est une denrée super précieuse. On a beau avoir tout l'or du monde, si on n'a pas d'eau, on survit 3 jours. Et ce n'est pas seulement le cas ici au XXIe siècle. C'était déjà le cas avant et peut-être encore plus, qu'il n'y avait pas encore toutes les canalisations. Et en fait, vous voyez cette carte-là, c'est la carte du Proche-Orient. Et il y a quelques fleuves qui sont là. Est-ce que vous les connaissez? Qu'est-ce que vous connaissez comme point d'eau là, qui sont représentés? Le Euphrate, le Nil, la Méditerranée, le Jourdain, La mer Rouge? Et vous êtes bon, hein? La mer Morte, ouais, je l'ai pas, elle n'est pas représentée, mais elle est là. Voilà, le Nil, le Tigre aussi, l'Euphrate et le Jourdain. Et c'est une région qui peut être assez sèche, et donc l'eau est vraiment très précieuse. Et en l'absence de robinet, eh bien, on va pouvoir se développer auprès des courants d'eau. Et dans cette région du monde, il y a eu un peu les premières civilisations, peut-être vous avez entendu parler des Sumériens et autres, et ils se sont développés autour du Tigre, de l'Euphrate, du Nil, et ce qu'on appelle le croissant fertile, en fait, qui est là. Et c'est là qu'on a vu des grandes civilisations venir à l'existence. Et en fait, il y avait deux grands pôles. Il y a vraiment le pôle qui est autour du Tigre, de l'Euphrate, où il y a eu Sumer, où il y a eu... Il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Assyriens qui se sont développés là, et il y a autour de l'Égypte, il y a le Nil. Et c'est vraiment deux grandes puissances qui vont régner dans le proche Orient ancien, et ça va tantôt être la région de la Mésopotamie, qui est ici, tantôt ça va être avec Babylone, Ur, désert d'Arabie, et tantôt l'Égypte. Et il va y avoir un peu un passe-passe de qui est-ce qui va être le plus influent dans la région entre la Mésopotamie et l'Égypte. Et bien sûr, quand il y a des puissances économiques qui se développent, il y a du commerce qui se développe entre les deux. Je vous laisse deviner par où ils passaient pour faire du commerce entre l'Égypte et la Mésopotamie. Par Israël, hein, ils avaient deux choix. Soit ils passaient par le désert d'Arabie, ça ne devait pas être très confortable comme voyage, soit ils passaient par Israël. Et en fait, Israël se trouve entre ces deux puissances. Voilà Israël qui est juste là. Et puis, si je vous parle de tout ça, c'est parce que Ésaïe 7 commence en disant, il y a des rois qui viennent perturber Achaz. Et puis, c'est un petit peu étonnant, parce qu'on voit là, il y a trois rois. Il y a Achaz, qui était le roi de Juda. Il y a Retsin, le roi de Syrie. Et il y a Remalia, le roi d'Israël. Mais là, on peut se poser la question, ces deux rois-là, ils montent contre Jérusalem. Puis on peut se dire, mais soit j'ai des problèmes de géographie, puis Jérusalem, Israël, il est où le problème? Pourquoi ils sont en guerre civile? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est la carte d'Israël. Au passage, je remercie Wikipédia pour leur fichier que j'ai pu reprendre et modifier. Et ça, c'est à peu près la représentation d'Israël quand, si on prend un peu les territoires qui sont décrits en Josué. Et puis on voit, il y a 12 tribus en Jérusalem et ils se sont répartis le territoire. On ne sait pas vraiment s'ils ont réussi à occuper le territoire de cette manière-là. Mais c'est le territoire qui avait été donné. Et puis, vous connaissez, après la conquête en Canaan, donc Jérusalem, les Israélites arrivent en Canaan, prennent possession, et puis il y a la période des juges. Puis la période des juges, ça fait des hauts, il y a des moments où tout va bien, puis après ça s'écroule, tout va mal, ça va bien, en fonction de ce qu'ils font confiance à Dieu ou est-ce qu'ils font confiance à quelqu'un d'autre. Et puis après la période des juges, Israël en a marre, puis dit, on veut un roi. Il y a la période de la royauté qui commence avec Saül, puis avec David et Salomon. Et David, particulièrement, va réussir à donner un grand territoire à Israël. Et Salomon va vraiment s'affermir sur ce que David a construit. Et sous le règne de David et de Salomon, non seulement ils prennent possession de leur territoire, mais en plus ils exercent une pression sur les pays qui sont aux alentours, sur Édom, Moab, Ammon, sur la Syrie, qu'on appelle aussi des fois Aram, sur les Philistins, sur la Phénicie. Ils sont là et tous ces pays qui sont là autour, on va dire, sont un peu sous le joug d'Israël et leur doivent un tribut. Et puis après Salomon, il y a des conflits politiques, il y a Roboam, le fils de Salomon, qui hérite du trône, Et puis, la population se dit, mais il est peut-être temps qu'on puisse profiter, nous aussi, de l'essor économique du pays, qu'on puisse un petit peu se reposer, que ce ne soit pas juste le roi qui s'en mette plein les poches, mais que nous aussi, on puisse en profiter. Puis ils vont vers le jeune roi Roboam qui venait d'être nommé à la succession de Salomon. Et puis ils leur disent, mais est-ce que tu vas régner comme ton père en nous faisant faire des travaux et puis en ayant vraiment, en nous tenant d'une main de fer, ou est-ce que tu vas un peu relâcher ton emprise pour que nous aussi nous puissions nous développer? Puis Roboam, il se dit, mon père, il était très gentil avec vous, moi je serai encore plus dur. Mais, vous savez, un jeune roi, il n'a peut-être pas autant d'incises qu'un vieux roi. Et une partie du peuple profite de dire, bah, écoute, hein, nous, on prend un autre roi. Et le royaume du Nord, toutes les tribus qui sont au Nord, ils choisissent de se rallier à Jéroboam. Et puis le Sud, il se rallie au roi légitime, à Roboam. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il y a une scission qui se fait en Israël, où il y a d'un côté le royaume du Nord, qui est appelé dans la Bible tantôt Israël, donc on va appeler des fois Israël, et des fois c'est Manassé, Éphraïm, la Samarie, tout ça c'est le royaume du Nord. Et il y a le royaume du Sud, Juda, avec Jérusalem. Puis on l'appelle le royaume du Sud, Juda, peut-être qu'il y a encore d'autres noms. Et puis, vous savez, quand il y a des conflits un petit peu internes dans un pays, ben, tous les pays qui sont autour, ils profitent de se libérer du joug des Israélites. Et c'est eux qui vont commencer à mettre la pression sur Israël. Parce que quand un pays se divise, ben, forcément, il est moins fort et il n'arrive pas plus à asseoir son emprise dans la région. Donc là, ils commencent à avoir des problèmes et ils perdent certains territoires et tous les pays autour commencent à oppresser Israël. Et ce n'est pas ceux qui sont juste autour, mais il y a aussi l'Égypte et la Mésopotamie qui vont s'attaquer à Israël et qui vont faire des raids dans ce pays. Donc voilà un petit peu, là on est dans le contexte avec le royaume du Nord, le royaume du Sud, la Mésopotamie au Nord, l'Égypte au Sud. Et c'est dans ce contexte-là que se déroule notre récit. Si vous voulez projeter ça un peu dans le monde moderne, vous imaginez l'Amérique d'un côté, la Russie de l'autre, et deux, trois États qui les séparent. Il y a pas, on enlève l'océan là. Hein. Ou bien États-Unis, Chine. C'est vraiment c'est les gros mastodontes du moment. C'est les pays qu'on n'a pas envie d'aller embêter. C'est les pays qui font la loi dans toute la région. Et à l'époque d'Ésaïe 7, on est à peu près en l'an 734-735 avant Jésus-Christ, Achaz vient d'accéder au trône en Juda, dans le sud. Ozias, non. Remalia, il est le roi au nord déjà depuis 12 ans. Et puis c'est une période où l'Assyrie est en train de monter en puissance. L'Assyrie, c'est ceux qui sont en Mésopotamie, dans le nord, et ils disent, on va aller augmenter notre influence dans toute la région. Et puis l'Assyrie ne voit pas ça d'un bon œil. Israël non plus, ils aimeraient bien un peu être un peu plus libres et pas devoir donner plein d'argent à ces gens du Nord qui ne font même pas partie d'eux. Et ils se disent, mais si on se rassemble, on va peut-être pouvoir faire barrage à la Syrie. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Syrie, son but, c'est d'aller zigouiller les Égyptiens. Et donc, pour aller zigouiller les Égyptiens, ils doivent passer par Israël pour récolter les tribus dans les peuples environnants, Israël est la route commerciale, hein, donc ils sont obligés de passer par là. Et il y avait déjà eu dans le passé une fois où Israël avait d'un coup fait bloc, peut-être avec des pays aux alentours, je crois, et ils avaient réussi à bloquer la Syrie. Hein, donc cette petite tache là-haut, c'est tout petit, hein, Israël, c'est aussi grand que la Suisse, peut-être même pas. C'est tout petit Israël. Et ils avaient réussi à bloquer la Syrie. Et là, ils se disent, on va essayer de faire la même chose. Mais Judas n'a pas envie. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec, avec la Syrie? Ils se disent, bah, hey, on devient copain, on va casser la gueule à Judas, puis comme ça, il est avec nous. Puis, on n'est plus deux, on est trois à bloquer la Syrie. On ne leur laisse pas le choix. Et c'est pour ça que Pekar, le fils de Remalia, le roi d'Israël, Retsin, le roi de Syrie, viennent pour assiéger Jérusalem. Alors on comprend que dans ce contexte-là, Achaz, le roi de Juda, il a les chocottes. Ah, il y a Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, là, qui règne sur la région, puis il y en a deux ou trois qui aimeraient le prendre dans une coalition pour aller lui faire la guerre. Puis lui, tout jeune roi qui vient d'être nommé, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Alors, bah, il se prépare. Puis là, Dieu suscite un prophète, Ésaïe, pour aller à la rencontre de ce roi pour lui dire, mais hé, hey, n'aie pas peur. Tu sais, le Dieu qu'on a, il est avec toi, il est avec nous, et tu n'as pas à trembler devant Pekar et Retsin. Sors à la rencontre d'Achaz, dit Dieu à Ésaïe, avec ton fils, Shéar-Yazoub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Alors pourquoi est-ce que Dieu l'envoie là? À nouveau, là, il y a une question d'eau, réservoir supérieur. Ben parce que quand on doit se préparer au siège, hein, comme disait Giulio, il faut monter les murs. Hein. Il faut que ça se construise, il faut que ça avance. Et l'eau est un élément absolument stratégique. Quand on a une époque de siège, si on n'a pas d'eau, on crève. Alors il faut prévoir le réservoir d'eau et le roi va faire le tour pour savoir s'il est prêt à supporter le siège. Et Ésaïe va à la rencontre de cet homme et lui dit, mais sois tranquille. Sois tranquille. Mais si jamais il n'a pas bien compris, n'aie pas peur. Troisième fois, que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, ainsi que du fils de Remélia. Il dit, mais n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Retsin le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Et il dit, mais t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de cette situation et il va te permettre de rester debout. Ah voilà, j'ai sauté un verset, c'est pour ça que je suis un petit peu perdu. Parce que, au verset 6, il dit, montons contre Judas, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Alors bien sûr, hein, quand il y a un roi qui ne nous plaît pas, une des solutions, vous savez, on fait la même chose en entreprise, hein, quand il y a un chef qui ne nous plaît pas, on le gicle, on met celui qui nous plaît à la place, celui qui fera ce qu'on lui demande de faire. Puis là, c'est ce qu'ils veulent faire. On gicle Achaz, puis on met Tabel. Moi, j'imagine qu'Achaz, il devait quand même avoir un petit peu les chocottes, parce qu'il était fraîchement arrivé sur le trône. Puis il dit, mais ça n'arrivera pas parce que Dieu a promis que la royauté de David resterait à Jérusalem. L'Éternel dit encore à Achaz, demande pour toi un signe, demande ce que tu veux. Et qu'est-ce que fait Achaz? Il répond comme un politicien. Ah, parce qu'il a besoin de... Il a déjà des problèmes avec les autres rois. Il ne va pas encore avoir des problèmes avec le pouvoir religieux. Non, non, écoute, moi je fais confiance en Dieu. T'inquiète pas, je ne demande même pas de signe, je suis prêt à lui faire confiance. Et c'est Dieu qui est en train de lui parler, puis dire, mais demande un signe. Alors bien sûr, on ne va pas provoquer Dieu en disant, mais écoute, il faut que tu... Mais là, c'est Dieu lui-même qui lui parle. Et quand on a soif de Dieu, on se dit, ben, si Dieu nous donne un signe, ben, c'est qu'on va être plus proche de Dieu. Puis on saisit l'occasion, puis on se dit, mais oui, moi j'ai envie d'aller à la rencontre de Dieu, je saisis cette occasion et j'y vais. Puis là, on a un homme qui agit vraiment, il calcule. Il ne va pas dire à Ésaïe que c'est des sornettes ce qu'il raconte, hein, parce que ça ne se fait pas. Un signe, il n'y croit pas trop, donc non, c'est bon. Écoute, tout va bien, Dieu va agir, j'y crois, fous-moi la paix, reste dans ton monde, et puis moi je reste dans le mien. Ce n'est pas le seul endroit où, dans la Bible où il est question de ce passage-là. Il y a aussi dans 2 Rois, chapitre 16, on voit comment Achaz, il agit. Puis en fait, Achaz, il ne fait pas du tout confiance à Dieu. Il va aller vers les hauts lieux, il va adorer d'autres dieux, il ne va pas du tout suivre la voie que David avait montrée au peuple. Et il va même faire quelque chose d'assez étonnant. Il va aller chercher le trésor du temple, il va prendre dans ses réserves royales, et il va envoyer cet argent à Tiglath-Pileser, le roi de Mésopotamie, en disant « Écoute, il y a deux rois qui sont en train de comploter contre toi, tu ne veux pas aller leur casser la figure ?» Et donc il ne compte pas du tout sur Dieu. Pas du tout. Et c'est effectivement ce que fera Tiglath-Pileser. Il va descendre et puis il va aller en Israël, en Syrie, il va ratiboiser le pays. Et puis, pendant quelques instants, il aura la paix à Achaz. Mais revenons au texte, à la prophétie d'Ésaïe. Écoute donc, membre de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ? Et des fois, nous, je crois qu'on fait la même chose dans nos vies. Des fois, plutôt que de compter sur Dieu, on fait nos petites manigances pour arriver à notre but. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Dieu donnera un signe, c'est la Vierge qui sera enceinte. Dans l'autre traduction que j'ai prise avant, c'était Louis II, c'est traduit la jeune fille. Alors, il y a tout un débat pour savoir si c'est vierge ou jeune fille. On peut tout à fait traduire vierge. C'est quelqu'un c'est une femme qui ne doit pas être enceinte. C'est une jeune fille. Vierge, c'est tout à fait la bonne traduction. La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Mais des fois, dans notre lecture de la Bible, on saute tout de suite. Voilà, on lit ce texte-là et puis on saute accomplissement Jésus-Christ. Et je me dis, mais Achaz, il devait quand même attendre quelque chose. Puis peut-être qu'un salut en Jésus-Christ dans 2000 ans, il avait besoin de concret. Et une des manières de lire ce texte, c'est de se dire, mais c'est vraiment quelque chose, Dieu voulait parler à Achaz aussi. Bien sûr, cet accomplissement a lieu en Jésus-Christ. Mais il y a déjà un prémisse qui est là au temps d'Achaz. De dire, mais il y a une jeune fille dans ton peuple qui est là. Et le temps qu'elle se marie, qu'elle ait un enfant, que cet enfant grandisse et sache discerner le bien et le mal, eh ben, tu seras délivré de tes ennemis. Et en fait, en 732 avant Jésus-Christ, donc 2-3 ans plus tard, Damas est rasé, la capitale de la Syrie. Ils se font zigouiller. Et en 722, donc 13-14 ans après, eh ben, c'est Samarie, qui est la capitale du royaume du Nord, qui est rasée. Et en fait, cette délivrance arrive rapidement pour Achaz. Alors certainement que s'il avait fait confiance à Dieu plutôt que de magouiller pour y arriver, ça aurait été beaucoup plus paisible pour Judas. Mais quoi qu'il en soit, Dieu était fidèle et il a œuvré pour délivrer Achaz. Mais si on s'arrête ici et on dit mais ben voilà, cette prophétie a été accomplie à ce moment-là, oui, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais attends, Dieu il parle d'un signe que la Vierge sera enceinte. Est-ce que c'est simplement pour dire, mais attends quelques années et puis tu seras délivré? Il y a un goût d'inachevé, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Et ça a été compris de tout temps, puisque Matthieu, un des premiers textes de l'Ancien Testament qu'il va citer, c'est de dire, mais la Vierge sera enceinte et on appellera le Fils Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est accompli en Jésus-Christ, un accomplissement absolument fulgurant. Dieu, il ne veut pas se contenter d'une vague promesse. Il veut être avec nous. Et avec Jésus-Christ, il est venu vraiment personnellement. C'est la personnification de la présence de Dieu au milieu de son peuple.
Et ce qui m'a frappé avec ce texte, et puis aussi en pensant à Noël,
c'est de voir le contexte dans lequel a eu lieu cette prophétie. Aujourd'hui, on ramène Noël et la foi de manière générale à quelque chose de très personnel. On dit, mais tu peux croire en Jésus, c'est très bien, c'est comme ça que tu seras sauvé, mais surtout, n'embête pas les autres avec tes histoires. Et puis, même moi, quand je prêche régulièrement, je vais dire, mais Dieu, il sauve les personnes une à une. Il n'y a pas un contexte global où on pourrait être sauvé autrement que personnellement en passant par Jésus-Christ. Et Dieu change le monde en changeant une personne après l'autre. Et là, moi, ce qui m'a confronté, c'est de me dire, mais il dit, pas seulement pour Achaz, mais pour tout le peuple, votre salut sera en Jésus-Christ. Votre salut sera en Dieu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper défiant pour nous chrétiens. Parce que notre société, elle est tout à fait d'accord qu'on croit en Dieu, pour autant que ça reste dans notre sphère privée. Mais il n'est pas question de faire des actes de foi en dehors de notre sphère privée. Et en tant que chrétien, on est influencé par ça. On est prêt à faire confiance à Dieu pour nos problèmes personnels, pour notre couple, pour notre famille. Mais est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu pour notre business? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu pour notre pays, pour nos affaires, pour des choses qui sont bien plus larges que nous? Est-ce qu'on croit que Dieu a une solution au réchauffement climatique? Oui, oui, le salut est en Jésus-Christ. Et quand je vois dans cette crise internationale hyper complexe, Dieu, il a prophétisé Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, c'est un message qui est toujours d'actualité. Emmanuel, Dieu avec nous. Pas seulement pour moi, pour ma personne, pour mon petit entourage, mais également pour mon entreprise, également pour mon pays, également pour les crises internationales, également pour les situations qui nous échappent complètement. Et aujourd'hui, il faut qu'on saisisse de ça. Il faut qu'en tant que chrétien, on le croit, on l'affirme. Cette année, je n'ai pas encore vu une seule crèche de Noël. Visuellement, aucune référence à la naissance de Jésus. J'ai vu des boules de Noël, j'ai vu des sapins, j'ai vu des pères Noël, j'ai vu des branches d'arbres. Et peut-être vu une ou deux étoiles, hein, quand même, il faut se rappeler que c'est l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à Jésus. Mais Jésus, je ne l'ai pas vu. Chaque année, on va un peu plus loin. Chaque année, on veut repousser un petit peu plus la foi dans le domaine privé. Parce qu'une fois que c'est dans le domaine privé, c'est caché, c'est étouffé, et les chrétiens n'embêtent plus personne. Et on peut faire des plans, on peut avoir des projets, on peut avoir des solutions. Mais la seule source de salut qu'on va avoir, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va nous sauver, c'est lui qui va nous délivrer. Et Dieu, il n'a pas considéré qu'une promesse, Dieu avec nous, verbalisée, montrée par une délivrance incroyable de son peuple, était suffisant. Il est venu lui-même personnifier cette présence au milieu de nous en Jésus-Christ. Et si ce salut, si au temps d'Ésaïe, il a pu prophétiser en disant « Mais Dieu est avec nous !» Même si la prophétie n'a pas encore été complètement réalisée, Dieu est déjà avec nous. Mais aujourd'hui que Jésus-Christ est venu, qu'il a envoyé son esprit, mais Dieu est avec nous. Dieu, il est avec nous, pas seulement pour notre petite personne et puis notre réussite personnelle, mais si on veut un salut pour la Suisse, si on veut un salut pour l'Italie, le Congo, la Chine, Israël, ce sera en Jésus-Christ. C'est le seul qui puisse nous délivrer. Ésaïe est envoyé auprès d'Achaz avec son fils
qui s'appelle Shear Yashub. Et Shear Yashub, si Dieu l'a envoyé avec, c'est parce qu'il servait aussi de signe à Achaz. Ça veut dire, en reste reviendra. Alors on comprend que dans la situation, ben voilà, la déportation n'est pas si loin que ça, et pour le royaume du Nord, et pour le royaume du Sud. Mais il y a un reste qui sera fidèle à Dieu. Il y a un reste que Dieu va se garder précieusement. Et je me pose toujours la question, mais où est-ce qu'on va se situer? Est-ce qu'on fera partie de ce reste à être fidèle auprès de Dieu ou bien pas? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça vous dit quelque chose? Ouais, j'entendais oui. C'est quoi? La généalogie de Jésus-Christ, exactement. Et puis, il y a certains noms qu'on peut voir ressortir. Alors, ce n'est pas sur ce slide. Voilà. Il y a certains noms qui ressortent, Abraham. Et en fait, ça, c'est des noms qui sont... Il y a deux généalogies, une en Matthieu, une en Luc. Et il y a quelques noms qui sont communs. Hein, une, c'est la généalogie de Joseph, l'autre de Marie. Il y a quelques noms en commun. Il y a Abraham, David, Zorobabel, c'est pour ça que je l'ai laissé. Si ça vous intéresse, essayez d'aller creuser un petit peu dans AG et puis ses contemporains pour voir pourquoi Zorobabel est dans la généalogie de Jésus-Christ, dans les deux. C'est très intéressant. Et il y a Achaz. Hein? Il y a ce pourri. Et ça a vraiment été un pourri. Hein? Vous pouvez lire sa vie dans le livre des rois, c'était pas un bon roi. Et il se retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Comment ça se fait, hein? Parce que Dieu, il a fait une promesse à David et il lui a dit, tu auras un descendant qui régnera sur Jérusalem à tout jamais. Ce descendant, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu, il est fidèle à ses promesses, non pas parce que nous, on y serait fidèles, mais parce que lui, il est fidèle. Et si on place Jésus-Christ au centre, mais vous inquiétez pas, il va œuvrer, il va nous délivrer. Dieu est avec nous. Puis même quand on sera un petit peu borderline, quand on sera un petit peu, on va essayer de magouiller pour nos petits plans, faites-le pas, hein, ça amène des mauvaises choses. Mais Dieu sera fidèle à son alliance, pas à cause de nous, mais à cause de lui. Et je vous invite vraiment à ce qu'on apprenne toujours plus à faire confiance à Dieu pour nos vies, pour nos enfants, pour nos conjoints, mais plus largement, pour nos entreprises, pour notre travail, pour notre pays, pour les crises internationales. Seigneur, nous te remercions parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Et tu as voulu que cette présence au milieu de nous soit personnifiée. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu envoies aujourd'hui ton Saint-Esprit pour que cette présence soit là au milieu de nous. Et nous voulons te dire bienvenue, Seigneur, bienvenue. Nous voulons te faire confiance. Tu connais nos situations. Seigneur, nous savons qu'en toi, il y a une porte de sortie. Tu connais la situation de la Suisse. On te prie, Seigneur, que des Suisses te fassent confiance, que tu viennes au secours de notre pays. On te prie pour le réchauffement climatique. Nous croyons que tu as une solution à cela et nous te prions de venir la manifester. Seigneur, nous croyons que tu as une solution aux crises politiques majeures. Nous l'avons chanté tout à l'heure, au-dessus des rois, au-dessus de puissance, bien avant le monde, tu existais. Tu connais le mouvement de chacun. Seigneur, alors que Noël approche, nous voulons nous rappeler que ce n'est pas juste un petit bébé impuissant que nous avons accueilli sur terre, mais c'est aussi un grand roi, tout-puissant, capable de faire chuter les hommes les plus grands, capable de revitaliser l'homme le plus faible, capable de faire triompher tes plans, non pas parce que nous aurions fait ce qui était juste, mais parce que tu es fidèle à ton alliance. Emmanuel, sois avec nous. Amen.